RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous.
À la une ce matin, tapis rouge et dossier chaud.
Le président chinois Xi Jinping sera reçu aujourd'hui avec faste à l'Elysée, mais il sera aussi question des sujets qui fâchent, la concurrence déloyale et la guerre en Ukraine.
À suivre aussi la filière automobile qui s'engage à multiplier par 4 la production de voitures électriques en France d'ici 3 ans. Une vendetta corse devant les assises et puis les poissonniers marseillais qui travaillent entre deux échafaudages sur le Vieux-Port à 2 jours de l'arrivée de la flamme olympique.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer sur le premier grand débat des européennes organisé hier sur RTL avec les 7 principaux candidats et Jordan Bardella au centre des attentions.
Oui, on va refaire le débat et vous allez l'entendre. Ah, c'était animé.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Cela faisait 5 ans qu'il n'avait plus remis les pieds en Europe. Le président chinois Xi Jinping est en France pour une visite d'État de 2 jours. Cérémonie d'accueil en grande pompe cet après-midi aux Invalides, banquet ce soir à l'Élysée. Mais avant les réjouissances, Bénédicte Tassard en entretien en fin de matinée avec Emmanuel Macron. Et là, ce ne sera pas une partie de plaisir.
Oui, priorité aux discussions stratégiques et surtout l'Ukraine. La Chine reste le principal levier pour faire bouger Poutine. Pas de naïveté, assurent les diplomates. On sait que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont un but commun, le déclin de l'Occident. Mais Pékin n'a pas intérêt à ce que le chef du Kremlin menace de l'arme nucléaire et enfonce l'Europe dans une guerre de 10 ans, parce que la guerre, ce n'est pas bon pour les affaires. Le commerce, c'est le second dossier chaud de ce voyage. Xi Jinping est à la tête d'un pays avec une croissance molle, avec des consommateurs chinois qui n'achètent plus, un secteur immobilier en crise, et le président chinois arrive dans une Europe bien décidée aujourd'hui à ne plus se laisser faire. Des enquêtes ont été déclenchées sur les voitures électriques, les panneaux solaires, les produits médicaux chinois. Pékin, de son côté, met des bâtons dans les roues du cognac français. La France doit réussir à redresser son déficit commercial avec la Chine. La Chine doit trouver des acheteurs en France.
Bénédicte Tassard, chef du service international de RTL. Au cours de cet entretien, vous venez de l'entendre, il sera notamment question de la concurrence déloyale des voitures électriques chinoises, alors que la France s'engage justement ce matin sur la route du tout électrique. Le gouvernement et la filière automobile vont signer tout à l'heure un contrat stratégique qui doit donner un gros coup d'accélérateur à la production. Les précisions de Christophe Bourou.
L'idée de ce contrat, multiplier par 4 le nombre de voitures électriques vendues en France d'ici à 2027, pour atteindre les 800 000 et par 6 les ventes d'utilitaires. Pour cela, l'État garantit que les aides comme le leasing social, la prime à la casse et le bonus seront maintenues, sans toutefois chiffrer le montant d'un tel coup de pouce, estimé à 1,5 milliard d'euros cette année. Autre objectif, développer le nombre de bornes de recharge et ainsi passer d'un peu plus de 100 000 à 400 000 à l'horizon 2030. De son côté, la filière automobile s'engage, elle, à davantage produire en France. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de modèles électriques par an. Enfin, même si la France s'électrifie, des millions de voitures, essence ou diesel, continueront à circuler. Pour cela, les professionnels veulent pousser le rétrofit qui consiste à adapter sa vieille auto thermique en électrique, même si aujourd'hui une telle opération coûte encore très cher. Comptez par exemple près de 16 000 euros pour transformer votre Renault 5 en mode branché.
Ni voiture, ni train, ni avion, c'est une info RTL. 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances cet été, d'après un sondage Opinionway pour le comparateur de voyages Liligo. C'est un chiffre en légère hausse et ça, c'est une première depuis la crise sanitaire. La principale explication, c'est l'inflation.
RTL 6h04, 3 morts en 2 jours. Nouveau règlement de compte hier soir à Sevran.
2 hommes connus de la justice pour trafic de stupéfiants ont été abattus en pleine rue dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé à 2 km 4 à peine d'une autre fusillade qui avait fait un mort et 6 blessés vendredi soir. Il est l'un des rares à avoir assisté à la reconstitution qui a eu lieu hier à Nanterre. L'avocat de la mère de Naël sera ce matin l'invité de RTL à 7h40. C'est sa première interview. Il nous dira si la reconstitution qui s'est achevée hier soir à 22h a permis d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de l'adolescent de 17 ans tué par un tir policier en juin dernier après un refus d'obtempérer.
Le procès d'une vendetta s'ouvre aujourd'hui aux assises d'Aix-en-Provence.
L'affaire remonte à 2017. Deux figures du banditisme corse sont abattues à l'aéroport de Bastia. Un double assassinat sur fond de lutte fratricide entre clans mafieux, Plana Radenovic.
Oui, dans cette salle d'assises, deux clans issus de l'organisation mafieuse historique de la Brise de Mer vont se faire face à partir de tout à l'heure, 14h. Dans le box, 16 accusés liés de près ou de loin au double assassinat commis à l'aéroport de Bastia-Poretta il y a plus de 6 ans. Une partie des héritiers de la Brise de Mer, des fils d'eux en somme, réunis par un seul dessein, venger la mort de leur père. Et sur les bancs des parties civiles, face à eux, leurs frères ennemis, la famille des deux victimes, eux aussi issus de la Brise de Mer. Pour contrer le silence de ces Corses qui connaissent bien la justice, les investigations s'appuient sur l'accès inédit à toutes les conversations entre les accusés sur des téléphones cryptés, où le principal d'entre eux écrit, par exemple, après le double assassinat, je cite « J'ai pas retrouvé mon père dans leur flaque de sang », des mots qui sonnent comme un aveu et du crime et de son mobile.
Et Plana, vous avez pu échanger ces deux dernières années avec l'un des personnages centraux de ce procès, une surveillante de prison accusée d'avoir embrassé les deux victimes à leur arrivée à l'aéroport de Bastia pour les désigner aux tueurs. Vous nous raconterez comment cette femme a basculé dans RTL événement. Rendez-vous tout à l'heure, juste après le journal de 7h. Deux infos à retenir dans l'actualité internationale ce matin. La première, c'est la reprise des négociations tout à l'heure en vue d'une trêve à Gaza. Des négociations qui s'enlisent. Le Hamas réclame la fin de la guerre, tandis qu'Israël ne souhaite qu'un cessez-le-feu temporaire. Et puis au Brésil, les inondations monstres dans le sud du pays ont fait au moins 78 morts et une centaine de disparus. Plus de 100 000 habitants ont dû quitter leur maison.
Et nous partons maintenant à Marseille, où la flamme olympique débarquera dans deux jours.
On attend 150 000 personnes sur place et c'est déjà l'effervescence sur le Vieux-Port, Mathilde Duranton.
Nacelles et échafaudages, une trentaine d'ouvriers sont en plein chantier pour transformer le Vieux-Port en une scène de concert qui célébrera l'événement de l'année, l'arrivée de la flamme olympique. Juste à côté, les marchands de poissons se contentent des quelques mètres restants. Pas question pour eux de quitter le Vieux-Port.
S'il n'y a pas les pêcheurs sur le Vieux-Port, c'est plus Marseille. Hein.
Olivier vend son poisson sur le Vieux-Port depuis 35 ans.
C'est un peu la pagaille. On travaille entre des échafaudages et enfin, un tas de trucs pour que tout se passe bien. On arrive à s'en sortir, mais c'est un peu compliqué, quoi.
Devant cette grande scène, Estelle a les yeux rivés sur ce chantier XXL.
On découvre toutes les installations, là, ça a l'air d'être un sacré bazar. On voit que tout commence à s'organiser, qu'il y a beaucoup de monde au boulot. On imagine qu'il va se passer plein de choses.
Une piste d'athlétisme gonflable a aussi été installée sur l'eau pour accueillir le premier porteur de la flamme olympique en France, le nageur marseillais Florent Manodou.
Et vous vivrez l'arrivée de la flamme sur RTL, RTL Soir en édition spéciale ce mercredi dès 18h. Jeudi, un grand relais traversera Marseille. Basile Boli, Jean-Pierre Papin ou encore Soprano porteront la flamme. Le rugby, les Toulousains se sont qualifiés hier pour la finale de la Champions Cup en battant les Anglais des Harlequins 38-26. Ils joueront le titre le 25 mai face aux Irlandais du Leinster qui les ont éliminés lors des deux éditions précédentes. Et puis en Formule 1, c'était le Grand Prix de Miami. Hier soir, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Max Verstappen qui l'a emporté, mais Lando Norris, le pilote de McLaren, sa première victoire en F1.
Les courses à Vichy.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 11, le 9, le 15, le 6, le 10 et le 14. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11, J'aime le foot.
Un cheval qui s'appelle J'aime le foot.
Ouais, voilà, J'aime le foot, on peut imaginer plein d'autres versions.
Merci beaucoup Sébastien, vous revenez à 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, vos messages. Ils sont nombreux une nouvelle fois ce matin, Marina.
Oui, par SMS, déjà, nous avons un bonjour de Nicolas de Lillard dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous dit « Bon courage à tous les colporteurs de presse. En priorité à mes collègues de la Voix du Nord. Nous avons aussi Yanis des Transports Figuera. Yanis des Transports Figuera qui donne le bonjour à Stéphane. Grosse pluie et 12 degrés à Digoin, c'est en Saône-et-Loire. Et puis un petit message de Pat Lamouche, routier à Saint-Avold en Moselle, où il fait 13 degrés. Lui, il donne le bonjour à tous ses collègues routiers.
Merci Marina.
RTL Matin. Le surf de l'info.
Cyprien, vous surfez donc sur le premier grand débat des européennes. C'était hier sur RTL avec les 7 principaux candidats et Jordan Bardella au centre des attentions.
Oui, c'est un peu sa fête à Jordan Bardella. Dès les premières minutes, Valérie Ayé ouvre le bal.
Autour de la table, Monsieur Bardella, on sait évidemment...
Ça commence.
Qu'il y a... Oui, ça commence parce que vous avez le soutien à la Russie qui est honteux aujourd'hui.
Eh oui, la Russie, angle d'attaque également pour l'écolo Marie Toussaint.
Et vous prétendez défendre la France, Monsieur Bardella, mais la réalité, c'est que vous êtes un agent de l'étranger.
Sans oublier Raphaël Glucksmann, qui lui aussi avait préparé sa petite punchline.
Lisez les textes que vous votez, arrêtez de passer votre temps sur TikTok.
Bon, après, il n'hésite pas à en remettre une pièce dans la machine, Jordan Bardella non plus. On dirait que ça lui fait plaisir même.
La question, elle est très claire et je vous la pose directement, Madame Ayé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le premier pays européen importateur de gaz russe?
Vous me posez la question, monsieur Bardella. Ouais. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout.
C'est la France.
C'est l'hôpital qui
se fout. Et oui, pas vraiment ébranlé. Il remet une pièce dans la machine et ça repart. Et pourtant, elles ont été nombreuses, ces attaques, avec en chef de file Manon Aubry.
Monsieur Bardella, permettez, on vous a pas beaucoup vu au Parlement européen ces 5 dernières années. Vous avez déposé, en l'espace de 5 ans, 21 amendements. Quand j'en ai déposé, 3500 amendements. Pardon, mais vous êtes plus le parti à la flamme nationale, mais bien le parti à la flemme nationale. Vous êtes un assisté, un menteur, un profiteur du système et vous êtes payé avec l'argent public et il faut que les Français le savent.
Le sachent, mais bon, sinon ça marche et c'est pas fini. Hein.
J'aimerais me tourner vers vous, monsieur Bardella, parce que ces propositions...
Pour changer.
Vous êtes le larbin des grands patrons.
Allez, une petite dernière de Manon Aubry.
Monsieur Bardella, vous avez sur votre liste des gens qui ont du sang sur les mains et à votre place, j'aurais honte.
Et évidemment, Jordan Bardella avait lui aussi prévu son attaque sur Manon Aubry, écoutez bien.
Et avec les Bardella au pouvoir, il n'y aurait...
Voilà. Sinon, on a aussi une sorte de guerre fratricide assez étonnante entre Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann.
J'ai du temps de retard, j'aimerais m'exprimer sur la question.
Raphaël, tu peux
Nous allons porter.
Honnêtement, on se connaît, tu ne peux pas faire ça.
Nous n'avons pas porté.
Marion Maréchal qui leur dit aller prendre un café plutôt. En tout cas, coup de chapeau au chef du service politique de RTL, Olivier Bost, qui a géré ces 7 candidats agités d'une main de maître.
On va passer maintenant au temps de la conclusion.
Donc on n'a pas tous 30 secondes, s'il vous
plaît. Non, parce que on va pas. Non, on ne va pas y arriver parce que vous parlez tous beaucoup trop et que vous avez été globalement tous indisciplinés.
Et toc, l'élection, c'est dans un mois.
Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le mouvement étudiant pro-Gaza s'étend au lycée avec un appel au blocus à partir d'aujourd'hui. Bonjour Gwen Thomas Alves.
Bonjour.
Vous êtes président et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Vous attendez un mouvement massif?
Bien sûr, on attend des blocus conséquents aujourd'hui et sur les prochains jours évidemment. Oui.
À tout de suite, 6h12.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Miles Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199€ par mois. Arkana Business Miles Hybrid 140 EDC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 4 000€. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. Si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Mais si, Chantal, c'est très simple. On a appelé notre entrepreneur qui a contacté son cousin maçon et qui a demandé à sa femme de nous faire un devis.
Oui, effectivement, c'est simple.
Alors on a attendu, enfin pas longtemps, environ 3 mois, et on a reçu notre devis.
Ah. Eh bien, chez Akena, vois-tu, tu te connectes sur le site akena.com, tu demandes un devis gratuit et on te rappelle en 48 heures. C'est dingue, non?
Ah oui, quand même.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Ah, c'était trop cool ce premier date avec toi, Chloé.
Mais ça t'ennuie pas de payer le resto?
Hein, parce que je dois réparer ma voiture.
Gros frais, hein.
Ah, Paul n'est pas très crédible. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscar Odez signifie les jours Oscaro.
Bonjour les...
les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, 6 mai, je vais vous parler d'une des plus grandes tragédies militaires françaises du XXe siècle, la bataille de Dien Bien Phu. Sayonara. Oui, le mec, il connaît pas la langue.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Et avant de retrouver notre invité, coup d'œil au journal de 6h30, Xi Jinping est en France. Le président chinois a atterri hier après-midi à Orly. Il sera reçu aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Et le vignoble français fera peut-être partie des discussions parce qu'il y a 15 ans, 150 châteaux viticoles bordelais étaient rachetés par des Chinois. Et aujourd'hui, le mouvement s'inverse et de plus en plus sont de nouveau en vente.
Des investisseurs qui ont été sans doute déçus par la réalité de leurs investissements, des échecs commerciaux, des personnes qui ont cru à l'Eldorado, d'autres qui ont voulu faire des coûts financiers, sans doute ont dû être déçus, donc ils sont partis.
Le président du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, Bernard Farge, que vous entendrez dans le journal de 6h30.
RTL. Les trois questions du petit matin.
Et nous sommes donc ce matin avec le président et porte-parole du premier syndicat lycéen, l'Union syndicale lycéenne, Gwen Thomas Alves. Il est 6h15. Vous appelez au blocus à partir d'aujourd'hui dans tous les établissements, dans tous les lycées, pour dénoncer la situation à Gaza. Après les étudiants, les lycéens donc. En quoi ce qui se passe aujourd'hui à Gaza doit-il mobiliser les lycéens français ?
Non, bah c'est une réponse très simple, c'est-à-dire qu'il y a 35 000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, et donc nous on considère que chaque être humain doit se sentir concerné, et c'est ce qu'on a en fait depuis le début, c'est-à-dire que depuis 7 mois on a des mobilisations, des rassemblements, des manifestations, mais on voit bien que rien ne change et qu'aujourd'hui on n'a toujours pas un cessez-le-feu, et donc pour nous il faut pouvoir transformer ce mouvement, comme ce qui s'est passé aux États-Unis et aujourd'hui, la semaine dernière à Sciences Po Paris, avec des blocus dans tous les lycées de France.
Mais c'est un sujet de discussion dans les lycées qui dépasse le cadre syndical?
Bien sûr,
on en parle entre élèves.
Bien sûr, c'est à Gaza. C'est une question qui touche en réalité, parce que on en parle très souvent un peu partout, et donc évidemment que c'est une question qui fait parler, évidemment. Oui.
Je précise que vous n'êtes plus lycéen, hein, vous êtes en première année de fac.
Tout à fait.
Vous avez 18 ans, mais vous êtes le président de ce syndicat des lycéens. Vous êtes conscient que la vie d'un lycéen français de seconde, de première au terminale, va pas changer le cours des choses à Gaza, quand même.
Évidemment, mais le truc c'est que on a aujourd'hui une injustice. C'est un peu comme ce qui s'est passé en mai 68, même si évidemment le contexte est différent, je l'entends.
Mais 68, c'était un mouvement social. Là,
qui est parti avec des comités Vietnam contre la guerre au Vietnam. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a un peuple qui est opprimé injustement. C'est le peuple palestinien depuis 7 mois et même bien avant. Et en fait, on a juste envie de se mobiliser en soutien à ces personnes-là. C'est un devoir de responsabilité qui nous anime. Et on compte bien répondre à ce devoir, évidemment.
Mais la finalité, c'est quoi? Vous n'êtes pas content et après? Qu'est-ce que ça va changer à Gaza, en fait?
On a deux revendications très claires, c'est le cessez-le-feu en Palestine et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. C'est deux choses qui, pour nous, sont très importantes et qui nous tiennent à cœur, et c'est sur ça qu'on va pouvoir bloquer des lycées aujourd'hui dans les jours qui suivent.
Le cessez-le-feu, il est en discussion depuis, ça fait des semaines que ça traîne, et on voit encore ce matin que c'est très difficile. En quoi votre mobilisation lycéenne peut changer les choses? Ma question.
Alors déjà, c'est un cessez-le-feu permanent, qu'on veut pas seulement une trêve de 40 jours, hein, où dans 40 jours, on sait très bien que le combat reprendra, et notamment à Rafah, et après, sur la question de quelle est notre importance à jouer, en réalité c'est un mouvement international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des universités qui sont mobilisées à Sydney, à Londres, aux États-Unis, et donc on a envie de se joindre à ce mouvement international pour qu'on puisse peser auprès de nos dirigeants politiques et pour qu'ensuite nos dirigeants politiques puissent aller porter la voix de la paix auprès du gouvernement d'extrême droite Netanyahou.
Les étudiants, on peut comprendre que les étudiants soient politisés, surtout dans des établissements comme Sciences Po, mais les lycéens, on a du mal à comprendre.
Non, moi, pourquoi
vous êtes touché par le problème directement?
Moi, je crois pas vraiment à ce discours infantiliste qui viendrait dire que les lycéens ne savent pas placer une carte.
On a entendu certains dire que vous ne saviez pas, que les lycéens ne savaient pas placer Gaza sur une carte. Oui,
évidemment. Et sauf que on le réfute, cet argument-là, c'est-à-dire que chaque être humain a compris qu'il y avait 35 000 personnes tuées dans la bande de Gaza. Donc, c'est quand même un conflit qui est compliqué à comprendre puisqu'il y a des notions historiques très importantes à avoir. Mais en revanche, sur l'état actuel des choses, c'est quand même très simple. Hein, c'est 35 000 personnes tuées dans la bande de Gaza et jamais un conflit avec autant de morts sur les 4 dernières années, en tout cas, pardon.
Vous ne vous êtes pas mobilisé pour l'Ukraine?
On s'est mobilisé, si.
Ah bon?
Il y a eu des rassemblements.
Il y a eu des blocus.
Non, blocus, je ne sais pas. J'étais pas encore lycéen, il me semble. Mais en tout cas, non. Enfin, sur toutes les questions qui touchent un peuple qui est opprimé, on a évidemment une vocation, nous, à que chaque peuple opprimé puisse être défendu.
Mais est-ce que vous êtes ému de la même manière pour le sort des Israéliens tués le 7 octobre dernier par le Hamas. Et ça, là, on ne vous a pas entendu, il me semble.
C'est une certitude qu'on condamne les attaques terroristes du Hamas perpétrées le 7 octobre. On les condamne.
Mais vous avez organisé des blocus à l'époque, j'ai pas souvenir.
Il y a eu des rassemblements auxquels on s'est joint.
Après le 7 octobre,
on s'est rassemblé contre l'antisémitisme parce qu'on considère que c'est un poison pour la lutte palestinienne. Non, sur ce sujet-là, on est extrêmement clair.
Ces blocus, ils vont ressembler à quoi? Ce sera trois poubelles devant deux ou trois lycées ou ça va vraiment être massif?
Et ben pour le coup, ça c'est aux lycéennes et aux lycéens de savoir, et c'est pour ça qu'on les invite à bloquer leur établissement. Et après, dans tous les cas, ça c'est quelque chose qui est décidé en assemblée générale, au préalable du blocus, pour que les lycéennes et lycéens puissent décider collectivement, démocratiquement, de la manière dont va se faire ce blocus.
Mais vous sentez déjà que ça prend sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, on voit que ça prend, et ceci pour nous a l'intérêt qu'on puisse sensibiliser sur cette question-là, et qu'ensuite on puisse avoir des blocus massifs aujourd'hui et dans les prochains jours.
On est à quelques semaines du bac. Est-ce que c'est le bon moment?
Le baccalauréat est dans un mois et demi. Il y a très souvent des mouvements sociaux et notamment dans les lycées sur le mois de mai. Donc, on a absolument confiance là-dessus. Et puis, dans tous les cas, chaque
confiance dans quoi de perturber les examens?
Non, sur la réussite de ce mouvement. Il n'est pas encore question d'aller perturber les examens, quoi que ce soit.
Vous n'avez pas envie de bloquer les examens du bac? Aujourd'hui, c'est pas l'objectif.
Pour le coup, on pourra pas encore se prononcer là-dessus. C'est quelque chose qui pourrait s'envisager dans tous les cas. Mais dans tous les cas, après, enfin, tout s'organise au niveau local, dans chaque lycée. Donc, il y a des lycées qui vont permettre aux élèves de pouvoir rentrer dans l'établissement si jamais ils ont un motif important. D'autres qui n'ont pas les laisser. Et à la fin, nous, on soutient tout type d'action pacifique.
Vous entendez ceux qui vont forcément dire que vous êtes instrumentalisé, notamment par LFI?
Non, cet argument, on le comprend pas. C'est-à-dire que nous, à l'USL, on est là pour travailler avec toutes les personnes qui mettent la question palestinienne au centre du débat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite, nous, le PS, le Parti communiste, les Verts, à se joindre à nos mobilisations, à se joindre au blocus en soutien et aux lycéennes et aux lycéens mobilisés.
Vous appelez aujourd'hui à la libération des otages israéliens, par exemple?
On est effectivement très clair sur ce sujet aussi.
Et là, vous mobilisez fortement sur la question palestinienne et on vous a pas entendu sur les autres sujets. Je reviens à ma question d'avant.
Parce qu'encore une fois, il y a le lien humain qui se fait. C'est-à-dire qu'on a, on a eu plus d'enfants morts sur les 4 derniers mois qu'au cours des 4 dernières années sur tous les conflits. Mais sur la question des otages, on demande absolument la libération de tous les otages retenus par le Hamas, la libération des prisonniers palestiniens, la fin de la colonisation. Sinon, mais on a aussi d'autres revendications. Mais en tout cas, sur les mots d'ordre, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par la France et la fin du cessez-le-feu, pardon.
Et on va entendre des gens dire, mais attendez, les lycéens, ils se mêlent de quoi, là?
Encore une fois,
vous entendez ça?
Bien sûr, on l'entend malheureusement, et c'est un argument infantiliste qu'on réfute, parce que on a notre mot à dire, c'est-à-dire que on sait exactement ce qui se passe, on est une génération politisée, notamment via les réseaux sociaux, avec des sources fiables évidemment, et donc on a notre mot à dire et on fera peser notre voix.
Merci beaucoup Gwen Thomas Alves, président et porte-parole du premier syndicat lycéen, l'Union syndicale lycéenne. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Bonjour Bernard Lehuche.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est un livre qui n'en finit plus de séduire les lecteurs. La Tresse de Laetitia Colombani, sortie pourtant il y a 7 ans.
Et oui, son adaptation au cinéma en novembre dernier n'a fait que relancer les ventes. On va se pencher sur les raisons de ce spectaculaire phénomène d'édition.
A tout de suite, 6h22 sur RTL.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin.
Loïc est un plombier sympa qui, dans son métier, n'est jamais à court de bons tuyaux. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire la tasse avec son budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Loïc peut enfin se jeter à l'eau. Fiat Ducato, Easy Pro suréquipé, une disponibilité immédiate, un prix unique de 24 900 euros hors taxes et une garantie de 160 000 km ou 4 ans.
Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnel est la solution. Prêt remisé pour Fiat Ducato Easy Pro, valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 31 mai. Détails sur fiatprofessionnel.fr.
Fiat Professionnel, professionnel comme vous.
À tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui... Il n'arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210 euros par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 000 euros. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiac. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Laissez-vous tenter, première.
Et retour donc ce matin sur un phénomène d'édition avec le roman La Tresse de Laetitia Colombani, publié il y a 7 ans. Il est toujours classé dans les meilleures ventes du livre de poche et va atteindre, Bernard Lehu, le cap du 1,5 million d'exemplaires.
Oui, c'est un succès exceptionnel, fortifié encore un peu plus par la sortie à la fin de l'année dernière du film réalisé par Laetitia Colombani elle-même. Sans star à l'affiche, porté par un excellent bouche à oreille, La Tresse au cinéma a quasiment fait 1,3 million entrées, 7 ans après sa première parution. Cette histoire de trois femmes que tout sépare, une indienne, une italienne et une canadienne, mais qu'une tresse de cheveux va réunir, est devenue ce qu'on appelle un long-seller, quasiment un classique qui réunit les générations, comme s'en réjouit Laetitia Colombani.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, parce que je vois vraiment des personnes d'âge très différent se transmettre le livre. L'autre jour, à un salon du livre, j'ai dédicacé 3 livres, un pour la grand-mère, un pour la maman et un pour la jeune fille qui avait 15 ans. Il m'arrive aussi d'avoir des rencontres avec des familles, puisque le livre a été décliné en album pour enfants. Et parfois, j'ai des gens qui me disent, c'est ma fille de 7 ans qui m'a fait découvrir cette histoire. Elle avait l'album pour enfants et puis moi, j'ai acheté le roman. Donc, cette transmission intergénérationnelle, c'est quelque chose de vraiment magique. Et oui, il y a une transmission, il y a quelque chose qui se passe en fait de main en main.
Autre explication de l'impressionnant succès sur la durée de La Tresse, c'est un livre désormais étudié en classe.
Oui, le roman est souvent recommandé sur les listes du bac de français en première. Donc il y a beaucoup de professeurs qui suggèrent aux élèves de le lire et de le proposer à l'oral. Donc, il m'est même arrivé de dédicacer une copie. Voilà, une copie qui avait obtenu un 18. Alors, c'était pas bien sûr une copie du bac parce que voilà, c'est plutôt anonyme. Mais c'était en classe. Je sais que un certain nombre de professeurs aiment le proposer, l'étudier. Et puis moi, je fais très très régulièrement. Toutes les semaines quasiment, des interventions en lycée auprès des élèves.
Et un tel succès depuis 7 ans a dû susciter des rencontres ou des témoignages mémorables pour Laetitia Colombani, non ?
Évidemment, l'auteur de La Tresse se souvient en particulier de la lettre d'une de ses lectrices.
Le livre fait aussi référence à la maladie, donc il y a eu des témoignages que j'ai reçus qui m'ont vraiment bouleversée. Celui qui m'a le plus bouleversée d'entre tous, c'est la lettre d'une femme qui me disait qu'elle était malade depuis longtemps et qu'elle avait décidé d'arrêter ses traitements, et que quand elle a lu le livre lui avait redonné espoir, et que le lendemain de la lecture du livre, elle était retournée à l'hôpital pour reprendre le traitement, pour reprendre la lutte, en fait. Alors ça, c'est un témoignage qui m'a fait pleurer, qui m'a émue, et c'est une lettre que j'ai gardée.
Laetitia Colombani, l'auteur plus que comblé de La Tresse, si vous faites partie de celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, le roman est édité au Livre de Poche.
Merci beaucoup Bernard Lehu.
Laissez-vous tenter, première.
On a aucun avenir côté chanson.
Non, pas du tout. Un extrait de vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, avec un drôle de pantalon à la mode. Écoutez.
Un pantalon qui donne l'impression de s'être fait pipi dessus. Voilà ce qui effectivement a été présenté à la Fashion Week automne-hiver 2023 de Milan. Alors parfois, évidemment, ça a un peu choqué quand même, mais la marque explique vouloir dénoncer le capitalisme et les systèmes financiers qui ne ralentissent jamais, même pour aller aux toilettes. En fait, c'est ça l'idée.
Ah oui, mais c'est vrai.
C'est-à-dire que la vie va tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes.
C'est pour ça qu'ils le vendent 600 euros. C'est pour dénoncer le capitalisme.
Bien sûr.
Il y a une logique.
Et il paraît que c'est sous-traité, c'est fabriqué en Extrême-Orient, et ce sont des enfants dans des caves qui sont urinent sur les pantalons.
Oui, oui, c'est un continent.
Et ça, c'était la Fashion Week de Milan, mais la Fashion Week de Peace, alors, c'était encore pire.
Vos postes tous les jours, 15h30, 18h. Marina, un joli temps pourri.
Ouh là là, oui, on a une perturbation pluvieuse qui traverse le pays. Elle était hier soir sur l'ouest et maintenant elle se trouve sur les régions de l'est jusqu'à l'Occitanie. Donc beaucoup, beaucoup de pluie sur cette zone-là. Mais à l'arrière, vous avez aussi des averses. Elles sont juste moins nombreuses, mais vous en avez aussi. Et puis surtout, il y a une nouvelle perturbation qui va arriver, qui est déjà arrivée là par la Bretagne. Cette perturbation va devenir orageuse en cours d'après-midi, concernant la moitié ouest. Bon, tout ça va se confondre et ça donne un temps perturbé sur le pays. À un moment ou l'autre de la journée, vous aurez des averses, parfois des orages, de la neige en montagne. Il y a juste la Corse qui va échapper à tout ça. Vous allez garder un temps sec et assez agréable en Corse. Ce ne sera pas du ciel bleu, hein, mais en tous les cas, ce sera assez agréable. Vu la température, 25 à Ajaccio, 21 à Marseille, 19 à Paris. Il fera 17 à Lille et à Toulouse, 16 à Caen, à Nantes et à Lyon et 12 à Aurillac.
Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin avec vous Marina, avec Florian Gazan. Et cette semaine, William Galibert et Pierre Arbulot. Bonjour à tous.
Bonjour.
Un point c'est tout, William, France Télé qui zappe des chiffres et des lettres.
Oui, l'émission va s'arrêter et surtout, France Télé a fait ça, mais comme des cochons. Et ça me met en colère.
Ah oui, on le voit. Marina, la main verte, hein, comment protéger nos jardins de la grêle?
Ah oui, les solutions sont peu nombreuses. Alors, le filet anti-grêle en est une bonne, je vous en dis plus dans un quart d'heure.
Pierre, Boeing perd son pilote.
Oui, c'est ça, le patron David Calhoun quitte la boîte à la fin de l'année et surtout, il s'est augmenté de 45% dans un contexte un peu difficile pour la boîte. L'agence de conseil ISS conseille aux actionnaires de voter contre et moi aussi.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Et ce matin, on part à Rio de Janeiro. Ce week-end, il y avait Madonna et son concert géant à Copacabana. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi à l'origine, Copacabana, c'était ni une plage, ni au Brésil.
À tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL. Il est 6h30.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Bonjour Olivier Bois.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
À la une ce matin, 3 morts en 2 jours à Sevran, en Seine-Saint-Denis.
Des hommes tués par balles sur fond de trafic de drogue et les autorités qui évoquent un lien possible avec les récents démantèlements de points de deal. Dans ce journal également, le président chinois est en France pour une visite d'État de 2 jours et ils parleront peut-être de vin. Vous entendrez pourquoi. L'espoir d'une trêve à Gaza qui s'éloigne, le stade toulousain en finale de la Champions Cup, c'est du rugby, et puis les Toulonnais qui ont marre de partager leur pique-nique avec les pigeons qui ont véritablement envahi la ville.
RTL Matin.
Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est rendu hier à Sevran, en Seine-Saint-Denis, dans cette ville donc au nord de Paris, où 3 hommes ont été tués par balle en 2 jours lors de fusillades. Des renforts de police ont été envoyés. Les autorités expliquent que la piste privilégiée est celle de règlement de compte lié au trafic de drogue. Et hier soir, la fusillade a eu lieu en plein jour, Thomas Proutot.
Oui, les deux hommes de 31 et 35 ans ont été abattus en pleine rue vers 18h dans une allée d'un quartier de Sevran, tout près d'un parc de jeux pour enfants. Les tireurs n'ont laissé aucune chance aux deux victimes, archi connues de la justice pour trafic de stupes, d'après une source policière. Mais surtout, ces nouveaux meurtres ont eu lieu à 2 km à peine d'une première fusillade spectaculaire vendredi soir sur un parking d'un autre quartier de la ville. Un homme est descendu d'une Peugeot 5008, fusil mitrailleur en main, avant de tirer plusieurs rafales sur un groupe. Un mort et 6 blessés, dont 3 graves. Ce secteur de la Seine-Saint-Denis n'avait pas connu un tel nombre de victimes liées au trafic de drogue depuis des années, même si les règlements de compte entre trafiquants y sont fréquents. Une possible conséquence, d'après le préfet de police hier soir, des opérations de harcèlement des points de deal et de démantèlement de réseaux engagées depuis plusieurs semaines.
Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. La reconstitution à Nanterre s'est terminée tard hier soir, vers 22h. Les juges voulaient rejouer tous les faits qui ont conduit à la mort de Naël, tué par un tir policier après un refus d'obtempérer l'été dernier. La question centrale est de savoir si le policier auteur du coup de feu était en légitime défense, comme il le dit lui. C'est un moment clé de l'enquête et à 7h40, RTL reçoit un homme qui a tout vécu de l'intérieur hier, qui assistait à tous les moments de cette journée. Il est l'avocat de la mère de Naël, qui était présente d'ailleurs elle aussi. Maître Nadil Boudi parle pour la première fois ce matin sur RTL en interview tout à l'heure à 7h40 donc avec Amandine Bégaud.
Le président chinois est en France pour une visite d'État qui va durer 2 jours.
Oui, le tapis rouge hier soir à la sortie de l'avion à Orly. Une cérémonie en grande pompe aux Invalides. Le dîner évidemment à l'Élysée ce soir. La France soigne la forme et l'accueil, mais sur le fond, il y a des sujets de crispation. La Chine subventionne massivement, par exemple, ses entreprises et l'Europe dénonce une concurrence déloyale. Et puis, il y a la question centrale également de la guerre en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping affichant très régulièrement son soutien à Vladimir Poutine.
Et puis, on va peut-être aussi parler de vin.
Oui, parce que qu'il y a une quinzaine d'années, des hommes d'affaires chinois ont été pris d'une soudaine passion pour le Bordeaux. 150 châteaux achetés dans le Bordelais, mais aujourd'hui, il aurait plutôt à la revente, Denis Grandjou.
Oui, août 2008, un investisseur chinois achète la toute première propriété viticole à Bordeaux, un Bordeaux supérieur. C'est le début d'un véritable engouement de la Chine. De nouvelles étiquettes apparaissent, parmi elles le lapin impérial, l'antilope tibétaine, mais très vite, les milliardaires chinois ont déchanté. Bernard Farge, président du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Des investisseurs qui ont été sans doute déçus par la réalité de leurs investissements, des échecs commerciaux, des personnes qui ont cru à l'Eldorado, d'autres qui ont voulu faire des coûts financiers, sans doute ont dû être déçus, donc ils sont partis.
Depuis 2008, les hommes d'affaires chinois n'ont jamais réussi à acquérir de très grands crus à Bordeaux, se contentant, entre guillemets, de vins de milieu de gamme. Une situation qui les a peut-être démotivés.
S'ils ont investi sur des propriétés parfois de niveau intermédiaire, c'est qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen pour eux d'investir plutôt que d'acheter un grand cru avec un ticket d'entrée, si j'ose dire, très 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 élevé. Bon, c'est pas un désamour, c'est un reflux.
Et aujourd'hui, une cinquantaine de châteaux qui appartenaient à des Chinois sont en vente ou en passe d'être rachetés par des acteurs économiques locaux.
Merci beaucoup, Denis Grandjou.
RTL 6h34 à Gaza, l'espoir d'un cessez-le-feu a été déçu hier.
Oui, il n'y a pas eu d'accord au Caire hier soir. Le Hamas demande un cessez-le-feu définitif contre la libération des otages. Israël refuse. Les deux camps donc se renvoient la faute. Malgré tout, des discussions doivent reprendre au Qatar, avec en plus un point de crispation supplémentaire, puisque la chaîne qatarie Al Jazeera vient d'être fermée en Israël. Le matériel a été saisi également dans les bureaux de la chaîne, qui dénonce une attaque de la liberté d'informer, alors qu'Israël accuse Al Jazeera d'être la voix du Hamas. Jonathan Daguer est le responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières à Paris.
Al Jazeera est l'une des chaînes les plus grandes et les plus importantes qui sont aujourd'hui présentes dans la bande de Gaza. Bien sûr, leurs journalistes sont devenus emblématiques, une ligne plutôt pro-palestinienne, si on veut le dire. Mais nous avons vu clairement une tentative par Israël depuis le 7 octobre d'imposer un blackout médiatique sur l'information à Gaza. Que ce soit par le fait qu'Israël a tué plus de 100 journalistes par les frappes sur l'infrastructure de télécom à Gaza, les frappes sur les bureaux de médias, les frappes sur les proches des journalistes, leurs maisons, leurs bureaux, les coupures Internet. On constate une tentative continue avec la violence et maintenant avec la loi d'imposer ce blackout médiatique. Et cette censure d'Al Jazeera, elle s'inscrit dans ce même contexte de réduire au silence l'information libre, indépendante, pluraliste qui sort de la bande de Gaza.
Voilà pour ces propos recueillis par Nicolas Burnand. À retenir en bref, la flamme olympique approche du vieux port de Marseille. Après 12 jours sur le 3 mois, le Belém, elle arrive donc mercredi. Florent Manaudou sera le premier à la récupérer. Et ensuite, tout au long de la journée, on verra Jean-Pierre Papin, Tony Parker ou encore le rappeur Soprano porter cette flamme à travers toute la ville. Ce sera une grande fête et ce sera une journée spéciale et une édition spéciale sur RTL dès 18h. Donc pour l'arrivée de la flamme à Marseille et en France. Pour la première fois, la femme de Kenji Girac prend la parole, interview dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Elle assure qu'il ne lui a jamais fait de chantage au suicide, contredisant ainsi la version donnée par le procureur de Mont-de-Marsan. Et puis elle explique qu'elle a été étonnée qu'autant de détails sur leur histoire soient dévoilés, je cite, sans que nous le souhaitions. Le gouvernement réunit ce lundi matin la filière automobile pour signer un nouveau contrat stratégique 2023-2027 pour les objectifs en termes de véhicules électriques. L'objectif est de multiplier les ventes par 4 à l'horizon 2027.
Et on va revenir maintenant sur ce premier grand débat sur les européennes. C'était hier sur RTL.
Oui, un grand jury exceptionnel avec pour la première fois les 7 têtes de liste données à plus de 5% des intentions de vote. Pour la première fois, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, avait accepté de débattre avec tous les autres candidats. Il a d'ailleurs concentré l'essentiel des attaques, on l'entendait tout à l'heure avec Cyprien Sini, et à l'image également de cet échange avec Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise.
J'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Bardella, parce que ces propositions, vous ne les avez jamais soutenues, jamais votées, jamais défendues. Et je sais que vous voulez un peu cajoler les entreprises agroalimentaires. On vous a vu il y a quelques semaines faire la danse du ventre devant les grands patrons du MEDEF pour globalement leur donner les pleins pouvoirs. Eh bien, vous voyez, Monsieur Bardella, entre les Français et les PDG, moi j'ai toujours choisi les Français. À chaque fois, vous avez choisi les PDG quand il a fallu s'opposer à la taxation des super profits, s'opposer à la taxation des super fortunes, s'opposer à la hausse du salaire minimum. On parle peu de questions sociales dans ce débat. Monsieur Bardella, c'est le moment de faire votre bilan. Vous êtes le larbin des grands patrons.
Voilà, l'attaque de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise à l'encontre de Jordan Bardella. On rappelle que les élections européennes, c'est le 9 juin prochain.
Le Stade toulousain est en finale de la Champions Cup, c'est du rugby évidemment.
Oui, Toulouse qui affrontera Leinster le 25 mai prochain à Londres. Le Stade toulousain a battu l'équipe anglaise des Harlequins 38-26 hier, Patrick Hisson.
Eh bien, cette qualification pour la finale, le Stade toulousain la doit surtout à une première mi-temps de rêve avec 5 essais où les joueurs se sont trouvés les yeux fermés, comme l'explique Antoine Dupont.
On sent par moments qu'on a une certaine osmose sur le terrain quand on se jette les ballons, que ça finit toujours dans les mains de quelqu'un, qu'on finit derrière la ligne, on a vraiment un sentiment hyper agréable sur le terrain.
Mais cette magie toulousaine a laissé place à une seconde période plus défensive et François Cros a été désigné homme du match, son entraîneur Hugo Mola.
Il est très utile dans ce rugby qui n'est pas forcément le plus flamboyant. C'est vraiment un homme de l'ombre surimportant dans notre dispositif.
Place désormais en finale aux Irlandais du Leinster, contre qui les Toulousains restent sur 2 échecs consécutifs.
C'est un tout autre match en Angleterre contre des Irlandais qui sont maîtres en la matière mais que certains arrivent à bousculer. La Rochelle est un très bon exemple. Donc il faudra qu'on allie peut-être un peu de La Rochelle et surtout beaucoup de Toulouse.
Et rendez-vous dans 3 semaines dans le stade des footballeurs de Tottenham, choisi pour abriter cette finale de la Coupe d'Europe.
Merci Patrick, ils sont en football et pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Lille reçoit Lyon ce soir à 21h. Et puis c'est le Britannique Lando Norris sur McLaren qui a remporté le Grand Prix de Miami hier devant le triple champion du monde Max Verstappen.
Allez, comme promis, on va partir voir les Toulonnais qui en ont ras-le-bol des pigeons.
Oui, il y en a partout dans les rues du centre-ville et ils sont pas farouches. Ils montent par exemple sur les tables pour tenter de goûter à votre steak frites. Les Toulonnais ne savent pas comment s'en débarrasser. Reportage de Mathilde Duranton.
Restaurateurs, commerçants et boulangers passent une partie de leur journée, non pas à vendre, mais à faire fuir les pigeons de leur terrasse, comme l'explique Marianne, boulangère dans le centre-ville.
Mais c'est une catastrophe parce que nous, les clients, ils laissent les plateaux sur les terrasses et eux, ils viennent, ils picorent tout. Parce que le pigeon, il se met à voler, il monte à l'étage.
Selon Eric, gérant de bar, il suffirait d'être plus sévère contre les personnes qui les attirent.
Ce qu'il faudrait, c'est les gens qui les nourrissent, par contre, les verbaliser.
Pour réguler la présence de ces pique-assiettes, 2 solutions. La première, un pigeonnier avec des graines contraceptives installées par la mairie, mais pas assez efficace pour certains commerçants qui ont installé des coupelles autour de leur terrasse, une solution imaginée par Aurelio Manganaro.
Le principe, il est tout bête, c'est que ça simule un spectre de flammes à l'œil des volatiles.
Les pigeons sont tout simplement éblouis par les UV.
On le voit, ils sont gênés et puis ils repartent.
La mairie de Toulon le précise, il est interdit de nourrir les pigeons sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 450 euros.
Les Toulonnais, qui c'est qui imite le pigeon? C'est vous, Jean?
C'est Florian qui imite le pigeon, Florian Gazan. Vous faites bien le pigeon aussi.
Moi, je fais pas mal de choses. Merci Mathilde Duranton. Bon courage aux Toulonnais.
Dans le journal d'Olivier Bois qu'on retrouve à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Notre question du jour depuis le début de l'émission. Est-ce que vous êtes encore attaché au ticket de caisse? Vous dites oui à 72%, non 26%. Je rappelle qu'il y a une étude qui est sortie juste avant le week-end qui montrait que ces petits papiers censés disparaître depuis août dernier font encore de la résistance dans les hypermarchés. Vous êtes nombreux à nous dire, bah non, je garde mon ticket moi.
Oui, c'est vrai que vous êtes nombreux à aller dans ce sens-là. Jean-Vincent, lui, garde le ticket quand il a un caddie plein, car il y a des erreurs, il contrôle. Nous avons Nathalie qui va dans le même sens. Les promos annoncées dans les rayons ou dans les prospectus ne seront pas toujours appliquées. Il y a toujours des erreurs, donc elle garde le ticket pour vérifier. Brigitte, elle demande le ticket de caisse que lorsqu'elle fait des courses pour ses personnes âgées, mais pas pour elle forcément, car elle a l'appli et elle suit tout ça sur l'appli de son magasin. Franck aussi n'en a pas besoin, il suit ses comptes sur l'application. En revanche, Jean-André nous dit que tous les Français n'ont pas les moyens de posséder un smartphone et un abonnement Internet pour avoir leur ticket dématérialisé. Et il pose une question, les économies de papier faites par les magasins sont-elles répercutées sur notre addition ?
Ah, bonne question qu'il faudrait qu'on pose à Olivier Dauvert à l'occasion. Tiens, merci Marina. Et il y a une heure sur dans l'émission, c'est Sophie, elle est non-voyante, elle nous a appelé au 3210, écoutez son témoignage.
On s'est aperçu de beaucoup de choses. À un moment, on ne demandait plus. Et puis, on s'est dit, c'est bizarre, il y a des choses en plus dans notre caddie. Et une fois, maman dit, tu as acheté des avocats? J'ai dit, mais si, je ne prends pas d'avocat, je déteste les avocats. Heureusement qu'on avait pris notre ticket de caisse. On retourne à la caisse principale et on dit, on n'a pas acheté d'avocat. Donc, on nous fait fouiller notre caddie. On déballe tout. Évidemment, il n'y avait pas d'avocat. C'était la caissière du supermarché qui avait acheté des avocats pour elle. Non. Qui avait rajouté des avocats sur notre ticket de caisse pour pouvoir les acheter pour elle.
Le témoignage de Sophie ce matin dans l'émission. Et puis vous avez la parole évidemment tout à l'heure, dont les auditeurs ont la parole à partir de 13h. Dans votre tablette du petit matin, Florian Gazan, retour à Copacabana matin. Après ce week-end où Madonna a réuni plus d'un million et demi de fans, c'était énorme. Hein.
Concert record, le dernier de sa tournée mondiale. Donc à Copacabana, cette plage mythique de Rio. Et ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Copacabana, parce qu'à l'origine, c'était pas au Brésil, et puis c'était pas une plage.
Bah alors, 6h43.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble.
Sommeil difficile, équilibre alimentaire, addiction aux écrans, les sujets santé qui concernent les Français sont nombreux. On en parle dans Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL animé par Flavie Flamand en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP, disponible sur RTL.fr et sur observatoire-santé-pro-btp.com.
RTL.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33. Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Dans l'actualité, la reconstitution de la mort de Naël à Nanterre qui s'est terminée hier soir à 22h. Elle avait commencé dans la matinée. Le garçon de 17 ans avait été tué le 27 juin dernier par un tir policier lors d'un contrôle routier. Ça a remué les souvenirs des habitants du quartier.
J'ai entendu un petit peu les bruits. Alors je savais pas si c'était un coup de feu ou un impact, mais c'est triste parce que c'est un petit garçon que je connaissais. Tous les jours je vois les fleurs. Tous les jours je passe devant, je pense à ce petit garçon et pour plus que ça ne se reproduise en tout cas.
On y revient dans le journal de 7h. Et puis à 7h40, notez que c'est Nadil Boudi, l'avocat de la famille de Naël, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud. C'est la première fois qu'il prend la parole et ce sera sur RTL. À 7h15, on vous racontera cette histoire du baiser de la mort. Une surveillante de prison, complice de tueurs de la mafia corse, elle a aidé à identifier deux cibles en leur faisant la bise à l'aéroport de Bastia. Le procès s'ouvre ce matin. Et puis à 8h20, l'homme qui crée la surprise, son film fait le meilleur démarrage de l'année. Meilleur démarrage de l'année 2024. Un petit truc en plus, l'humoriste, acteur et réalisateur Artus sera l'invité d'Yves Calvi.
RTL Matin.
Bienvenue si vous démarrez la journée avec nous et si vous nous rejoignez à l'instant, 6h45, c'est l'heure de votre tablé du petit matin. Un point c'est tout avec vous et William Galibert cette semaine après 52 ans à l'antenne. 52 ans.
C'est pas moi, hein, 52 ans à l'antenne.
L'émission des chiffres et des lettres va s'arrêter à la fin de la saison et d'après vous, le compte n'est pas du tout bon pour France Télé.
Écoutez-moi cet tambour là. C'est beau, non ?
Superbe.
Vous êtes ému ?
Non mais alors,
quand même.
Franchement, on parle d'un jeu télé, donc c'est pas grave et rien n'est irremplaçable. Mais la façon dont France Télévisions a réglé son compte à l'émission, c'est vraiment pas très classe. Je vous raconte. Premier coup de pelle, il y a un an et demi, on leur a dit on va vous enlever de la semaine, on va vous recaser le week-end. Au passage, les mythiques Bertrand Renard, le roi du calcul mental à moustache, et Ariel Boulin-Prat, la reine des dictionnaires et des tailleurs fuchsia, avaient été débarqués. C'était en 2022, après respectivement 47 ans et 36 ans de CDD. CDD, CDI refusé, viré, je vous l'ai dit, pas très classe chez France Télé. Deuxième et dernier coup de pelle, une interview hier matin du directeur des programmes. Donc celui qui a décidé de les mettre le week-end, qui explique que ça ne marche pas trop ce recasage. Alors merci, au revoir. Tout ça manque d'un mot de 8 lettres. Tout ça manque d'élégance. Cette fin aurait pu être un petit peu plus préparée, annoncée avec un peu plus de délicatesse. Alors, c'était un formidable moment des chiffres et des lettres pour s'assoupir sur le canapé. On avait parfois envie de donner une petite canette de Red Bull à Laurent Romeshko, mais pour beaucoup aussi, c'était une petite madeleine télévisuelle. Et ça faisait aussi travailler le ciboulot. Toutes les chaînes veulent rajeunir leur public, mais le fait est que le téléspectateur moyen en France a environ 60 ans, donc faudrait pas l'oublier. Et puis vous savez quoi, je suis allé regarder hier des chiffres et des lettres, ce sont entre 200 et 250 clubs partout en France, des tournois toute l'année. Hier, il y en avait un à Calais, il y en avait un autre dans le Puy-de-Dôme. Il y a des groupes Facebook, il y a des forums de passionnés. Le jeu a une vie en dehors de la télé et ça va continuer.
Un point, c'est tout, en 15 lettres avec vous, William Galibert.
Vous
merci
avez compté.
Oui, j'espère que je ne me suis pas trompé. Marina, bon, les orages sont encore d'actualité aujourd'hui. Les cultivateurs vont encore passer une journée à surveiller avec angoisse le ciel. Mais il n'y a pas que. Parce que chez vous, que ce soit pour vos plantes ou vos biens, la grêle, c'est un vrai fléau.
Deux tiers des dommages causés par la grêle le sont sur des biens non agricoles, hein, comme les bâtiments et les véhicules. Et donc, le tiers restant des dégâts, c'est sur les cultures
et les biens agricoles.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger très concrètement?
Alors, ce que font de nombreux agriculteurs pour leur culture, que vous pouvez installer aussi pour votre jardin ou votre voiture, votre caravane, pourquoi pas, c'est le filet anti-grêle. Alors, c'est un filet placé au-dessus du bien protégé, évidemment, tenu par des poteaux, dont le maillage ne permet pas à la grêle de passer. Alors, c'est plutôt efficace, sauf évidemment en cas de quantité très importante de grêle ou de gros grêlons qui peuvent, avec leur poids, casser le filet, ou encore vraiment de violentes rafales de vent qui peuvent arracher le filet. Mais pour des orages classiques, ça fonctionne très bien. Et si vous avez des plantes individuelles, il existe des cloches de protection. Ce sont des cônes transparents. Ça ressemble un petit peu, vous savez, aux cônes qu'on voit sur les chantiers orange.
Oui. Voilà,
c'est la même chose, transparent. Vous placez votre plante en dessous. Là aussi, il ne faut pas que l'orage soit trop fort. Le mieux, c'est de les rentrer. Il n'y a pas de meilleure solution.
Et alors, les générateurs anti-grêle?
Alors là, c'est du matériel pour les professionnels, oui, à plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, ils sont gérés par l'ANELFA. C'est une association qui regroupe des agronomes, des agriculteurs et des élus. Elle en possède un peu plus de 1000. Il y a 1000 générateurs anti-grêle qui sont répartis sur le territoire français. Et elle loue ça aux agriculteurs. C'est composé d'une cheminée métallique et de deux grosses bonbonnes style bonbonne de gaz.
Alors ça fonctionne comment?
Alors le générateur envoie dans les nuages d'orage des particules d'iodure d'argent. Alors je ne vais pas vous expliquer exactement ce qui s'y passe, que je pense que je vais vous perdre. Mais retenez, le résultat, c'est que la taille de la grêle est divisée par deux. Donc c'est efficace, hein, sauf là aussi en cas de gros grêlons. Un grêlon de 8 cm avec le générateur pourra donner un grêlon de 4 cm, donc, mais 4 cm, ça reste dévastateur.
J'ai entendu parler aussi de canons anti-grêle, c'est pas la même chose?
Non, c'est pas la même chose. Les canons, alors, avec leur très forte détonation, engendrent des ondes qui auraient un impact sur la taille des grêlons. Alors, un, il n'existe aucune étude scientifique démontrant leur efficacité, c'est pour ça que j'emploie le conditionnel. Et deux, ils ne sont pas du tout appréciés du voisinage, car extrêmement bruyants, environ 130 décibels, c'est plus bruyant qu'un concert ou c'est l'équivalent d'un avion qui décolle. Et c'est à peu près une détonation les 7 secondes, toutes les 7 secondes pendant 30 minutes jusqu'à 3 heures.
Ah, donc on évite le canon anti-grêle dans le jardin. Merci beaucoup Marina, 6h50.
RTL, vivre ensemble.
Toute l'actu économique avec Préfonds, retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
La chronique éco avec vous cette semaine, Pierre Herbulot. Et donc aujourd'hui, un coup de gueule contre le patron démissionnaire de Boeing, un certain David Calhoun.
Je vous laisse imaginer la scène. Un Boeing 737 Max en plein vol. Il rentre son train d'atterrissage avec une roue en moins perdue au décollage. De la fumée grisâtre s'échappe de l'un des moteurs qui ne fonctionne plus. Une porte s'est même décrochée. Mais ça tombe bien, le PDG de la boîte, David Calhoun, a déjà enfilé son parachute doré. Il saute de l'avion en plein vol.
Un parachute doré pour le patron, le problème c'est son salaire.
Oui, un salaire de 33 millions de dollars alors que l'entreprise traverse une crise sans précédent avec des défauts de construction en pagaille sur ses avions. D'abord, le salaire est indécent, mais en plus, il est en hausse de 45%. La plus grosse agence américaine de conseil vient d'ailleurs d'appeler les actionnaires à voter contre cette rémunération déconnectée.
Ça reste moins quand même que la rémunération de Carlos Tavares.
36,5 millions d'euros, c'est vrai, mais dans un contexte très différent. Stellantis, c'est 19 milliards de bénéfices nets en 2023, un record en hausse de 11%. Chez Boeing, le cash disparaît au même rythme que les boulons censés tenir la carlingue. Le chiffre d'affaires baisse de près de 8% au premier trimestre, avec une perte nette de 350 millions de dollars. Après en avoir déjà perdu 400 millions l'an dernier, la branche aviation commerciale, elle, dégringole carrément de 25%. Et ça va continuer, l'avionneur a déjà prévu des retards de livraison sur ses avions cette année.
Et c'est quoi le problème chez Boeing alors?
Ça commence en 2018 avec la dernière version du 737 Max. Deux crashs à quelques mois d'intervalle font 350 morts. Dans les deux cas, une sonde censée empêcher l'appareil de décrocher tombe en panne. Juste après cet incident, David Calhoun, membre du conseil d'administration, est nommé PDG avec une mission simple, livrer des avions fiables.
Et sauf que tout ne se passe pas comme prévu.
Le 5 janvier de cette année, un 737 Max nouvelle génération de l'Alaska Airlines perd une porte en plein vol. Un accident gravissime qui entraîne la dépressurisation de l'appareil. Un technicien avait oublié de remettre les boulons en place. Pendant que l'administration fédérale de l'aviation américaine mène l'enquête, les incidents se poursuivent. 12 blessés dont un grave dans un vol australien après un trou d'air causé par un problème technique. Une roue qui se décroche au décollage et s'écrase sur un parking à San Francisco.
Et c'est là qu'on découvre des défauts de fabrication.
Oui, l'enquête révèle des manquements en cascade. 33 des 4 83 points de production vérifiés présentent des dysfonctionnements, 1 sur 3. Et une centaine de non-conformités aux procédures sont constatées, notamment dans le contrôle qualité. La justice américaine pourrait carrément dénoncer le deal passé avec Boeing après les crashs de 2018. 2,5 milliards d'amendes et dommages et intérêts pour les familles des victimes contre l'absence de poursuites.
Alors, ce qui pousse David Calhoun, le patron, à la démission.
La moindre des choses, vu la situation. Oui. Il renonce aussi, il faut le dire, à une prime d'intéressement de 3 millions de dollars. Mais c'est très largement insuffisant pour celui qui s'est augmenté de 10 millions en un an et qui laisse un géant de l'aviation au bord du précipice.
Votre plus, des affiches pour dénoncer la shrinkflation en supermarché dès le 1er juillet.
C'est cette pratique qui consiste à baisser la quantité d'un produit mais pas son prix. L'arrêté gouvernemental a été publié samedi au journal officiel.
Et puis votre note, 20 sur 20 aux financiers du fleuron français de la cybersécurité Atos.
Oui, eux qui doivent récupérer 5 milliards d'euros de dettes ont accepté d'assurer les besoins de financement de l'entreprise. Les offres de reprise sont examinées dans les prochains jours.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Alors samedi, Madonna a bouclé sa tournée mondiale en donnant un concert gratuit, un concert record sur la plage de Copacabana devant 1,5 million de personnes. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi à l'origine, Copacabana, c'était ni une plage, ni au Brésil.
Et voilà.
Et non, Jérôme, d'ailleurs, Copacabana, c'est un mot d'origine amérindien qui veut dire vue sur le lac. Et à Rio de Janeiro, à ce que sache, la vue qu'on a, elle est sur l'océan.
Alors, pourquoi ce nom, alors?
Eh bien, parce qu'il n'y a pas un Copacabana, mais plusieurs. Et le premier, celui d'origine, c'est une ville en Bolivie avec vue sur le lac Titicaca. C'est en marchant sur ses rives au XVIe siècle que Tota Yupanqui, un descendant d'empereur Inca fraîchement évangélisé par les Espagnols, a une vision. Sur la surface de l'eau, lui apparaît le visage de la Vierge. Elle lui demande de fabriquer une effigie de Marie dont les traits seront familiers pour les autres habitants des Andes. Il n'a jamais sculpté la moindre chose de sa vie, il est maladroit et pourtant, miracle, il y parvient. Cette statue, une vierge noire, il la baptise Notre-Dame de Copacabana et l'installe dans une basilique qu'il lui construit.
D'accord, mais quel rapport avec le Brésil?
Eh bien, Marina, très vite, la réputation de cette vierge noire se répand au-delà des frontières de la Bolivie et le bouche-à-oreille amplifie ses prétendues vertus. On lui prête des pouvoirs infinis, de guérison, de protection. Voilà pourquoi les évangélistes européens l'adoptent aussi et emmènent une réplique de la statue quand ils prennent la mer pour revenir en Europe. C'est le cas du moine portugais Antonio de Destero Malero. Alors qu'il navigue au large du Brésil en 1754, il est pris dans une terrible tempête. Il implore la Vierge Noire de les sauver, lui et son équipage, et promet que s'il en réchappe, il lui fera construire une église. Le miracle se produit. Le moine débarque sur une plage baptisée par les indigènes Sacopenapa, une plage de Rio de Janeiro.
Oui, alors, tiens, sa promesse.
Et ben voilà, il fait construire cette église baptisée tout naturellement Notre-Dame de Copacabana, à la pointe de cette plage qui va dès lors prendre le nom de cette Vierge salvatrice originaire de Bolivie, qui offrira d'ailleurs au Brésil en 1943 une réplique de la fameuse statuette du lac Titicaca. Une femme avec une couronne, une robe bleue comme la mer, debout sur un croissant de lune, la forme d'ailleurs de la plage vue du ciel. Aujourd'hui, à la place de l'église, il y a un fort d'où on a une vue imprenable sur celle qu'on surnomme la Princesinha do Mar, la princesse des mers, Copacabana. Cette plage de 4,5 km qui, vu son histoire, était l'endroit idéal pour que Madonna y chante Like a Virgin.
Ah bah, c'est bon. On comprend mieux. Voilà. Tout cela se tient.
Ça se tient.
Ça, c'est ce qu'on a entendu samedi soir. Copacabana. Merci beaucoup Florian, merci à toute la tablée. William Galibert, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
Oui, j'ai écouté le grand débat des Européennes hier, j'en ai tiré un grand vainqueur et trois grandes leçons. C'est très grand tout ça et je vous dis ça dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant.
À tout à l'heure. Un grand quart d'heure.
Marina, vous nous l'avez dit en début d'émission, alors on va aller progressivement vers le bien, vers une amélioration, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment très mauvais.
Ah mais oui, parce qu'on a la perturbation qui a concerné une bonne partie ouest du pays hier, qui se trouve sur l'est en ce moment. C'est là où on a le plus de pluie, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusqu'à l'Occitanie. Il y a juste la Corse qui échappe à ce mauvais temps. D'ailleurs, en Corse, ce sera sec toute la journée. Un ciel voilé, mais pas désagréable vu les températures. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne, mais qui est actif, c'est-à-dire qu'il y a quand même des averses assez nombreuses là sur le Nord-Pas-de-Calais en ce moment, la Seine-Maritime. Et puis surtout, il y a une deuxième perturbation qui arrive. Elle est là, déjà présente sur la Bretagne où on a des averses. Cette perturbation sera orageuse aussi par endroits et va concerner la moitié ouest du pays d'ici à la fin de la journée. Tout ça va se confondre et va donner de toute manière un ciel nuageux sur le pays. Vous pouvez avoir des petits moments d'accalmie avec un temps sec, mais enfin ça restera nuageux, pas ensoleillé. Puis surtout, les averses seront jamais bien loin. Il faut toujours avoir son parapluie à portée de main. À signaler aussi de la neige en montagne, que ce soit sur les Pyrénées comme les Alpes, à partir de 2000 mètres.
Et les températures ?
Alors les températures, on a un petit peu de tout cet après-midi. Il y en a qui seront basses pour la saison. Ce sera le cas à Aurillac, 12 degrés seulement à Aurillac cet après-midi. Hier, il faisait 21 degrés, hein, donc il y a une forte baisse par endroit. 14 à Cherbourg, 16 à Caen, 16 à Lyon. Là aussi, on perd 6 degrés par rapport à hier à Lyon. C'est en dessous des moyennes de saison. 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Lille, 17 à Toulouse aussi. Là aussi, c'est frais pour la saison. 19 à Paris, là, on est plutôt dans les moyennes de saison. 21 à Marseille et 25 à Ajaccio. 25 à Ajaccio, là, c'est doux.
Sur le groupe Facebook, on avait une auditrice, Pénélope, qui nous disait tout à l'heure, j'hésite entre raclette ou barbecue. Et on a Patrick qui lui a répondu, barbeclette, peut-être.
Ah.
Pas mal, bien vu. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Rien vous amuse.
Ah bah oui, barbeclette, je trouve ça rigolo.
Oui, nos auditeurs ont du tel.
Ah, c'est alors vrai. Ça, je vous le confirme.
Bon, plus bah, que nous. Hein. Bah, en aucun cas, on ne se permettrait pas, si ce n'est vous dire à demain matin.
À demain, allez, bonne émission.
Bonjour Amandine.
Et bonjour Yves, bonjour à tous.
Un rendez-vous à ne pas manquer ce matin, 8h20, nous recevons Artus, l'humoriste et comédien vient de réaliser la comédie phénomène du moment. Au cinéma, un petit truc en plus, a fait 500 000 entrées en 3 jours, un demi-million de spectateurs.
Ouais, c'est simple, c'est le meilleur démarrage pour un film en 2024. Il fait même, dans certaines salles, parfois mieux qu'Intouchable ou encore Les Choristes. L'histoire à la fois drôle et touchante d'un braqueur qui se réfugie dans une colonie de vacances pour handicapés.
Qu'est-ce que tu fous là, toi ?
Tu n'es pas handicapé ?
Si, tu veux pas handicapé,
moi. Bah, voudrais pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic ?
C'est ma petite bite.
Voilà, c'est drôle. Ça, c'est l'une des clés, sans doute, du succès.
Peut-être aurez-vous compris qu'il y a des scènes de douche collective, si je puis dire.
Voilà.
Ou la dernière remarque que vous venez d'entendre sur l'antenne d'RTL.
Quel est ce petit truc en plus ? Yves, vous poserez la question à Arthur tout à l'heure. Ce sera donc à 8h20.
Avec grand plaisir. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. 06 05 24. À partir de mercredi, le temps pourrait peut-être s'améliorer. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves.